Lundi 4 septembre 2023, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour parler de sport pendant une heure. Alors pour m'accompagner ce soir, elle est arrivée au dernier moment à cause d'un train en feu. Voilà, c'est un petit peu le lancement d'aujourd'hui. Notre maître d'orchestre un peu. Bonsoir Coraline.
Bonsoir à tous.
Alors après un an de pause, est-ce que vous pouvez nous représenter votre CV sportif, Coraline ?
CV sportif ? Alors, moi en tant que sportive, on est sur de l'absence, quoi.
Ah, c'est bien ça.
On est sur un petit footing de temps en temps, voilà, à la salle de temps en temps, donc très, très moyen. Et sinon, voilà, sinon après, j'aime bien le rugby, voilà.
Ah ben, on va voir ça dans quelques instants. Corentin est là aussi ce soir pour apporter un petit peu de neutralité dans les débats. Bonsoir Corentin.
Bonsoir Jonathan, bonsoir à tous.
Même question du coup, un CV à nous présenter et pourquoi neutralité ?
Alors, CV, c'est sportif plutôt depuis le canapé, même si je reprends un petit peu ma carrière d'arbitre de football depuis le début de la saison. Et neutralité parce que j'ai plutôt tendance à défendre le oui et le non sur les débats.
Oui, mais non. Bon, ça, c'est un peu le thème du débat qu'on vous présentera dans quelques instants. Et c'est la première fois qu'il est avec nous. Erwan est le nouvel arrivant. Autant vous dire qu'il met la barre très très haute. Bonsoir Erwan.
Bonsoir.
Voilà, est-ce qu'on peut vous qualifier d'un petit peu touche-à-tout au niveau du sport ?
Oui, c'est ça, on peut dire ça.
Voilà, Erwan, qui vient le lundi soir et qui annule d'autres rendez-vous qu'il avait avant.
Et oui, voilà. Mes coéquipiers pourront plus profiter de mes magnifiques passes en avant au rugby.
Eh ben, nous, on va en profiter à leur place. Alors donc, au programme de cette heure qu'on va passer ensemble, on va retrouver les tops et les flops de ce week-end, les sportifs qui ont sous-performé et ceux qui ont bien réussi. À suivre aussi un entretien en face-à-face avec Mégane Groupi. Elle est ostéopathe en cette période de rentrée. Certains d'entre vous vont sûrement inscrire ou réinscrire leur enfant au sport. En tout cas, c'est fortement conseillé. Eh bien, nous verrons avec elle comment bien reprendre le sport après cet été et surtout comment éviter les petites blessures. Ensuite, il sera l'heure de débattre autour d'un sujet chaud à l'approche de la Coupe du Monde et de rugby qui aura lieu ici, chez nous en France. Une liste de blessés qui grandit au sein du 15 de France. La Coupe du Monde à domicile est-elle en péril pour les Bleus ? On y répondra dans quelques minutes. Et pour terminer, évidemment, on jouera, on posera quelques questions pour voir si tout le monde est bien calé en Coupe du Monde de rugby et sur l'équipe de France. On verra ça en toute fin d'heure. Mais pour commencer, on retrouve Corinne Saint-Félix pour l'information sportive de la région. C'est tout de suite.
L'Infosport avec Corinne Saint-Félix.
En Ligue 1, le TFC ne brille pas face à Clermont.
Et non, le Toulouse Football Club a concédé le nul 2-2 face à Clermont dans les arrêts de jeu samedi pour la quatrième journée de Ligue 1. Le troisième maillot du Toulouse Football Club a été dévoilé ce samedi 2 septembre par le club. Un maillot inédit et original qui met à l'honneur les départements et les villes de l'Occitanie avec des flocages qui sortent de l'ordinaire. Les motifs présents sur le maillot représentent les numéros des 9 départements qui forment l'Occitanie. Les deux buts ont donc été signés Gers et Aveyron. Autre enjeu cette année pour le club, la Ligue Europa. Le TFC retrouve la scène européenne cette saison grâce à sa victoire en Coupe de France la saison dernière. Après tirage au sort, les Toulousains dans le groupe E affronteront Liverpool, Saint-Gilles et Linz.
L'équipe japonaise de rugby accueillie au Capitole.
La délégation nippone a choisi Toulouse comme camp de base pour la Coupe du Monde de rugby. La délégation est arrivée à Toulouse hier. Les joueurs ont été accueillis au Capitole en présence des représentants du Stade Toulousain et de la mairie de Toulouse. La fan zone qui sera installée à la Prairie des Filtres sera la plus grande de France. Les noms des joueurs japonais seront même gravés sur des briques d'un mur du stade Ernest Vallon. Premier match de l'équipe du Japon au stadium, ce sera dimanche face au Chili à 13h.
Une Coupe du Monde de rugby qui ne doit pas éclipser les autres compétitions en cours ce week-end.
A commencer par le top 14. Dans notre région, plusieurs matchs ont eu lieu ce week-end. Le stade toulousain a remporté samedi son match 21-27 face à l'équipe d'Oyonnax, tout comme Castres qui s'est imposé 37-0 face à Bayonne. La section paloise a de son côté fait plier Lyon 40-10. Reprise des matchs du top 14 le 29 octobre.
Côté vélo, la ville de Louron a accueilli deux manches de Coupe du Monde, une descente et une d'enduro sur un seul et même week-end.
Une première mondiale, la ville a l'habitude de recevoir une manche d'enduro, mais cette année, c'est une manche de descente qui s'est rajoutée au programme. Pour l'occasion, une piste depuis l'Altiport de Peyragudes jusqu'au parking du Skywall a été créée. Une piste de descente descente longue de 2,6 km et d'un dénivelé négatif de 540 mètres, une descente d'environ 3 minutes 15 pour les meilleurs du monde. Cette cinquième manche de la Coupe du Monde de VTT a vu le Français Loïc Bruni s'imposer devant l'Américain Dakota Norton et le Britannique Laurie Greenland. Chez les dames, Marine Kabirou, la pilote de Millau, monte sur la troisième marche du podium mondial.
Alors, vous qui êtes autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau maillot du TFC? Enfin, ce nouveau maillot. Ce maillot dédié à l'Occitanie avec Gers, Aveyron, Tarn-et-Garonne, Montauban et compagnie.
L'idée est bonne, après ça manque encore, je trouve, à mon sens, de couleur de violet, tout simplement.
Ah, Erwan a fait une belle remarque pendant le flash, qui a pensé aux joueurs qui venaient d'arriver.
Oui, effectivement, les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, donc ils voient ce flocage qui a été autorisé par la Ligue, bon, juste pour le cadre d'un match, hein, ils vont pas jouer la Coupe d'Europe avec marqué Gers et Aveyron dans le dos. Mais voilà, autant ce petit flocage c'est une bonne idée, autant c'est vrai, je renvoie à l'idée que ça manque un peu de violet, et ça fait surtout 2 ans que ça manque de violet sur le maillot.
Ça aurait peut-être pu être mis en place dans les matchs amicaux, les matchs de préparation peut-être cet été.
Oui, à la limite, ou sur la Coupe de France, à la limite peut-être, ça me dérangerait pas la Coupe de France.
Je sais que...
Inscrire les noms de la région derrière, ça me semblerait même plutôt peut-être à la limite plus cohérent. Mais pas là, quoi.
Corentin, qui est à distance, lui, dans l'Aveyron, aurait bien aimé voir un but de Millau.
Oui, ça aurait été pas mal, et puis ça aurait peut-être permis aux Toulousains de l'emporter.
Et on va en parler justement, puisque tout de suite, il est l'heure de retrouver la première séquence de cette émission, les tops et les flops de ce week-end.
Les tops et les flops.
Et Esprit Sport et Galanterie oblige. Coraline, vos tops et vos flops.
Oui, bah alors je vais commencer par mon top, soyons positifs d'abord. Mon top, du coup, c'est le record de l'UTMB explosé. Ce week-end, l'Ultra Trail du Mont-Blanc s'était lancé vendredi à 18h de Chamonix, direction Chamonix, oui, c'est une boucle. Au programme 171 km et 10 000 mètres de dénivelé positif, ça fait mal. Cette année, pas de pluie ni de neige, des températures agréables, les conditions météorologiques sont très très importantes pour ce sport. Quand il y a de la boue, le sol ne renvoie pas la même énergie que sur terrain sec. Conséquence, l'Américain Jim Walmsley, excusez-moi de l'accent, a remporté l'UTMB en pulvérisant le précédent record de 12 minutes. Il est arrivé en 19h37 minutes et 43 secondes. Joli parcours pour les Français, 6 dans le top 10 chez les hommes. Chez les femmes, Blandine Lirondelle finit elle 3e. Voilà, donc ça c'était pour mon top. Le flop sera pour une sanction à mon goût trop légère pendant le match pour Urda Pileta. À la 57e minute samedi, le Rochelais Brice Dulin dégage son camp par un coup de pied qui prend la direction de la touche clermontoise. Urda Pileta veut s'en saisir, mais trouve sur son chemin Ronan O'Gara, l'entraîneur de La Rochelle, qui était dans sa zone technique, donc qui avait tout à fait le droit d'être ici. Il le bouscule à 2 reprises, ce qui me gêne là-dedans. Donc, du coup, vous l'avez compris, c'est la sanction très légère, une simple pénalité durant le match contre le Clermontois Urda Pileta.
Cette action, elle a beaucoup fait parler, surtout sur les réseaux sociaux. Rapidement, Erwan, Corentin, la sanction.
Moi, je pense que personnellement, un carton jaune ne serait pas été démérité, parce que on voit surtout qu'il revient chercher Ronan O'Gara. C'est la deuxième poussette.
Oui,
en fait. La première, c'est un énervement qui peut sembler compréhensible. Je vais pas dire légitime, parce qu'effectivement, Ronan O'Gara, le ballon lui tombe un peu dessus, il peut pas faire autrement. Puis il a ses adjoints derrière, il me semble, à ce moment-là, il peut pas vraiment reculer. Donc la première poussette, je peux la comprendre. La deuxième, quand il vient chercher le long de la main courante, elle est beaucoup moins compréhensible, et c'est un geste d'énervement qui montre pas le bon exemple, tout simplement.
Corentin, en tant qu'arbitre, comment vous l'aurez sanctionné, ça, peut-être?
Alors, j'ai pas parlé plutôt de la sanction, mais plutôt de la réaction qu'a eu l'arbitre, et de justifier un petit peu le fait qu'il n'y ait pas eu de carton jaune par une situation qui était inédite, et par le fait aussi que Ronan O'Gara n'est pas un joueur prenant partie intégrante de la rencontre sur le terrain. Je pense que si Urda Pileta avait poussé un Rochelet, peut-être que la sanction aurait été un petit peu plus sévère de la part de monsieur l'arbitre.
Après, on connaît le caractère de Urda Pileta et de Ronan O'Gara. Voilà, c'est assez explosif de chaque côté, un petit peu pas insolent, mais peut-être un petit peu
réaction très classe, notamment quand même de O'Gara, qui a même pas réagi sur le terrain.
Il
n'a pas réagi, donc voilà. Réaction de, très très classe.
Voilà, Corentin, top et flop. À vous.
Alors, mon top, on va parler Formule 1 et d'un Max Verstappen puissance 10 qui vient de franchir un nouveau record avec sa 10e victoire consécutive remportée cette saison lors du Grand Prix de Monza. Un Max Verstappen qui n'en finit plus de rouler sur ce championnat de Formule 1. Le suspense est déjà tué, terminé. Et on va aller rapidement sur mon flop et on va parler football, mais pas du TFC, de l'Olympique Lyonnais qui n'en finit plus de creuser. Peut-être que Textor va finir par trouver du pétrole dans le Rhône. Scène en plus de remontrance à la fin de la rencontre avec le capot de la tribune des joueurs de l'OL qui a pris à partie donc les joueurs et qui se sont fait un petit peu gronder. Et en cette période de rentrée, ça fait plutôt penser au CPE qui vient passer un savon aux étudiants qui ont séché un cours. En tout cas, belle ambiance à Lyon qui est actuellement dernier de Ligue 1 dans un classement qui ne compte plus que 18 équipes pour le moment.
On va peut-être voir, la saison va être plus courte encore puisqu'il y a 18 clubs maintenant. La saison va passer très vite et peut-être qu'il y aura un duel Lyon-Toulouse pour éviter la relégation.
Je pense qu'elle va être longue quand même pour les supporters lyonnais la saison, malgré le fait qu'il y ait moins de matchs à disputer.
Effectivement, parce que Lyon ne joue pas l'Europe, voilà, comme depuis quelques années. Erwan, top et flop, il me semble aussi qu'il y a des véhicules dans votre choix.
Oui, c'est ça. Alors, notamment Ferrari. Moi, j'ai voulu mettre en avant la prestation de Ferrari qui a réussi à ne pas se saboter, en fait, tout simplement. Ah oui, maintenant, c'est devenu un exploit.
C'est presque ironique comme top.
Et surtout, chez eux, en Italie, les tifosi, ils ont pu se réjouir de voir du rouge sur le podium. Bon, Carlos Sainz et Charles Leclerc, ils n'ont pas pu faire grand-chose face au Red Bull. Carlos Sainz a essayé en début de Grand Prix, mais ça s'est vite estompé, les quelques espoirs italiens. Mais le podium, il est quand même beau. Sur ces terres, c'est symbolique. Et surtout, malgré une quatrième place de Charles Leclerc, on aurait pu vouloir doubler Sainz au dernier moment pour essayer d'accrocher le podium. Bon, au final, l'écurie a été suffisamment intelligente pour lever le pied et jouer la sécurité. Une tâche pas si facile quand on sait que c'est seulement le quatrième podium pour Ferrari cette saison.
Alors, on aime bien voir les rouges et leur ferveur à Monza, mais force est de constater que cette année, c'est une saison presque sans. Et le flop?
Le flop, c'est la deuxième mi-temps du TFC, parce que face à Clermont, le TEF, il affrontait un concurrent direct au Stadium ce dimanche. Alors, un concurrent pour le maintien ou pour le milieu de tableau, voire les places européennes, on ne sait pas encore, mais en tout cas, Clermont, c'est une équipe qui joue dans la dimension du TFC. Et en première mi-temps, la rencontre, elle émerveille les Indians et le reste des tribunes. Toulouse, c'est solide, très solide. La défense, elle contrôle le match et l'animation offensive, notamment sur les contres, elle est particulièrement fluide à la relance. Mais en deuxième mi-temps, et surtout dès la sortie de César Guélabert à l'heure de jeu, y a rien qui allait. Vraiment, rien ne va plus. Le TFC était incapable de répondre aux Auvergnats et il a subi de long en large, que ce soit défensivement ou même avec une incapacité à envoyer le ballon vers l'avant. Au final, le match nul à 2-2, il a presque des allures d'exploit, tant les Clermontois, ils ont eu d'occasion et que le score aurait pu s'envoler pour les visiteurs.
C'est vrai qu'il y a eu deux barres à la 55e et 77e. Guillaume Rest, qui vient d'être sélectionné avec l'équipe de France Espoir, a eu de la chance au final. Il y a la petite étoile qui brille au-dessus de lui. Peut-être l'étoile de Fabien Barthez, qui était aussi au stadium ce week-end. Mon top, on va passer au triathlon, qui était à Toulouse, qui a plutôt réussi aux Français. 300 mètres de natation, 4 km de vélo, 1,6 km de course, et tout ça, il faut le faire trois fois. C'est ce qu'a réussi à faire Léo Bergère, qui a fini premier et qui a eu un beau soutien des Toulousains sur les quais de la Dorade. C'était très beau à voir, tout comme chez les dames, où deux Françaises ont réussi à sortir du lot, Léonie Perriot, et Emma Lombardi, qui ont fini respectivement deuxième et troisième. Donc le triathlon a de beaux jours dans la Ville Rose. Voilà, se baigner dans la Garonne, quoi de plus. Il paraît qu'elle est meilleure que dans la Seine, chose que veut faire Anne Hidalgo pour les Jeux Olympiques. Ensuite, le flop, eh bien le TFC aussi. On va pas refaire le match évidemment. Moi, il y a une question qui m'est venue en tête pendant le match. Comment va se passer le match face à Liverpool le 9 novembre? C'est-à-dire que Toulouse-Clermont, c'est une bonne mi-temps de la part des Violets et encore 10-15 minutes. Après, c'est devenu très moyen. Est-ce que c'était leur état d'esprit qui a pêché avec un match qu'ils pensaient déjà fini au bout de 30 minutes? Des lacunes, un milieu de terrain faible, le duo Caceres-Siro qui ne séduit pas et ne fonctionne pas. C'est comme ça, c'est le tout début de saison, le mercato est terminé, donc il n'y a plus rien à faire. Une défense assez friable, avec ce cafouillage dans la surface qui mène à l'égalisation des Clermontois. Voilà, on parle aussi de cette chance de Guillaume Rest qui voit le ballon heurter la barre deux fois. Alors la Coupe d'Europe, c'est pas un objectif pour le TFC, mais en championnat, il faudra pas être si fébrile face à des équipes qui peut-être joueront la relégation comme le TFC. À noter que ce matin, le TFC a officialisé le départ de Stéphane Lièvre, qui était adjoint de Philippe Montagnier, qui a été écarté depuis le début de l'été. Voilà, il était dans le staff, mais il n'était pas actif dans ce staff. Pour petite anecdote, il avait accepté de baisser son salaire pour aider le club quand le club était en Ligue 2, et il s'est fait remercier après 20 ans dans le staff des Violets. Peut-être trop proche de Philippe Montagnier, l'ancien entraîneur. C'est peut-être ce qui lui a coûté son poste. Voilà. Une réaction sur l'état du TFC, puisque je vois que ça fait partie de deux flops. Corentin, peut-être.
Ouais, l'état du TFC, il est assez inquiétant. Après, vous l'avez dit, Jonathan, le mercato est terminé, mais heureusement pour les joueurs du TFC, parce que peut-être que deux ou trois joueurs auraient été vendus par la direction. C'est assez inquiétant de voir que les joueurs qui ont fait les deux dernières années au TFC n'ont pas été remplacés sportivement.
Anthony Roux est parti en Allemagne là il y a quelques jours en prêt avec une option d'achat, donc voilà, c'est le dégraissage a été fait, mais les achats ont pas été le président Comolli est un très bon vendeur mais un moins bon acheteur.
La méthode Data, ouais, n'a pas été performante pour moi pour remplacer notamment le milieu, Spierings, De Jagereux et puis Van den Boomen. Siro, c'est pas un équivalent sportif à Van den Boomen, bien qu'on essaye de nous le faire croire, mais sur le terrain, ça dynamise pas du tout le jeu, les passes sont beaucoup moins tranchantes, et même sur les coups de pied arrêtés, voilà, il n'y a pas énormément de propositions.
On a fait le tour de table. Tout de suite, on retrouve l'invité de ce jour. Il va être question d'éviter les petits bobos au moment de la reprise du sport pour cette rentrée 2023-2024.
Esprit Sport, le face-à-face.
Retour de vacances, on se remet au sport peut-être, que c'est la reprise après un long moment, et nous voyons aujourd'hui comment ne pas se faire mal lors de cette fameuse reprise. Alors comment éviter ces petits bobos ? Mégane Groupi est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Et alors, on va voir avec vous, vous êtes ostéopathe à Balma, en région toulousaine, vous intervenez en milieu sportif, vous faites du suivi d'équipe et de sportifs, et on va faire un petit peu de prévention avec vous pour ce premier entretien, est-ce que ça vous va ?
Ça me va.
Alors, première question, quelles sont les habitudes qu'on doit reprendre quand on refait un sport, ou du moins une activité physique ?
Alors, ce qui est hyper important, c'est l'échauffement. Je pense que tout le monde le sait. De bien s'échauffer, toutes les articulations, faut rien laisser au hasard. Reprendre progressivement, ça c'est sûr. Et voilà.
Donc, il faut habituer le corps petit à petit à pas se refaire mal. On va pas dire ça comme ça, mais à le réveiller, à rebrusquer un petit peu les choses. C'est comme une vieille machine.
Exactement. Une machine qui s'est un peu endormie peut-être pendant les vacances. Que ce soit vacances de quelques jours ou de plusieurs mois. Donc, il faut prendre en compte qu'on a peut-être perdu un petit peu.
Donc, même au niveau de quelques jours, le corps, il s'endort un peu.
Parce que les habitudes de vie ont changé. Le rythme a changé pendant quelques jours. Donc, oui, c'est possible qu'il se soit un peu ramolli, oui.
Donc, il faut prendre une petite habitude. Voilà. Tout au long de ce début de reprise, comment on fait pour que le corps s'adapte au mieux aux efforts ?
Alors,
on va penser, demain on reprend la marche par exemple, comment il faut faire pour ne pas être complètement fatigué au bout de la première heure de marche ?
La clé, je pense, c'est de reprendre de manière progressive, de pas être trop gourmand non plus, même si on avait de bonnes habitudes tout au long de l'année quand on s'est arrêté, le corps a perdu comme on vient de dire, du coup voilà, si on avait l'habitude de marcher 10 km tous les matins, et ben on va peut-être y aller tranquillement pour la reprise.
Parce
voir
quand,
comment
quand,
on se sent
quand c'est tout neuf, on a envie de repartir, on a envie de faire 200 bornes d'un coup de
on
marcher.
Est motivé.
Ah, on est motivé, on déborde, on se dit cool, j'ai des nouvelles chaussures, je vais les réessayer.
Voilà.
Donc il faut faire petit à petit. L'hydratation, on va casser un fléau tout de suite pour ceux qui nous écoutent. On voit dans beaucoup de clubs de foot, de rugby, un fléau, la fameuse bière après l'entraînement. On va briser un mythe tout de suite. Est-ce que c'est vrai que ça réhydrate ?
Pas vraiment.
Donc on
évite, désolée de casser le mythe.
On évite l'alcool après l'entraînement.
Voilà.
Évite le demi, on sent
l'alcool,
la bouteille.
Ou alors il faut alterner avec de l'eau, de bien hydrater avec de l'eau. Mais ouais, on peut pas dire que l'alcool hydrate, c'est des toxines. Donc les muscles qui viennent de travailler vont récupérer les toxines. Ça peut faire mal.
Premier entretien, la bière, on oublie. Voilà, comme ça au moins. On reste dans le thème. L'échauffement, chose que beaucoup de personnes oublient. Ne font pas, prennent ça à la légère. La place de l'échauffement dans l'entraînement, c'est combien de pourcents du travail à peu près ?
un gros pourcentage, parce que ça prend aussi la récupération qui est après. Donc, on va dire que c'est la moitié du travail de bien s'échauffer. Les capacités seront mieux pour faire l'exercice, hein, peu importe le sport qu'on veut faire ou l'activité physique. Et après, on se sentira mieux. Il y aura pas les fameuses courbatures du lendemain. Donc, ça prend une grosse partie, hein, l'échauffement.
On va reprendre l'exemple de la marche. Demain, je vais faire 10 km de marche, parce que je marche souvent. Est-ce qu'il faut s'échauffer uniquement bassin, genoux, cheville, ou est-ce qu'il faut vraiment échauffer tout le corps pour pouvoir être au mieux pour son effort physique?
Je dirais tout, parce que il y a tout le corps qui travaille, hein, même si on a l'impression qu'on travaille que les jambes parce qu'on va marcher, c'est pas vrai. Il y a tout le corps qui travaille en même temps, toute la colonne, les épaules, les cervicales, la nuque. Donc ça prend pas trop de temps, même pas 10 minutes d'échauffement, juste de bouger un peu toutes les articulations, et après comme ça on est parti. Mais oui, il vaut mieux chauffer tout le corps, prendre quelques minutes avant de démarrer, surtout si on commence à faire de la marche un peu active ou en montagne, ou voilà, où il y a un peu de dénivelé. Il faut tout échauffer.
Donc ne pas ignorer l'échauffement. Oui. On est chaud, on sait ce qu'on va faire, on est motivé, on va faire de la marche, on va faire du sport, on va faire du vélo. Les réflexes, on va dire, qu'il faut absolument avoir pendant un entraînement, c'est quoi? Pour éviter de se faire mal, pour éviter ces fameux bobos de reprise, claquage, déchirure, entorse, c'est quoi les bons gestes à adopter pendant l'entraînement?
Bon, du coup, échauffement, comme on a dit en début de séance, l'hydratation. L'hydratation, on n'y pense pas, mais c'est aussi pendant l'échauffement, pendant l'entraînement, parce que voilà, ça permet de continuer à drainer le corps tout au long de la séance. Et après, voilà, comme on disait, on y va progressivement. On fait des séances un peu plus adaptées au début, et quand on voit qu'on est à l'aise, on commence à augmenter un petit peu l'intensité, la durée de l'entraînement ou de l'activité. Mais voilà, l'hydratation et la régularité.
On arrive, ça y est, l'entraînement se passe bien, on a bien fait, on est content, on a bien évacué. Mais le plus dur arrive. Comment on fait pour éviter justement les autres bobos, ceux qui arrivent après, les courbatures, les pertes de motivation aussi, ça c'est possible. Comment après l'entraînement, il faut faire quoi? Là, on a vu ce qu'il fallait faire avant, pendant et le après. Comment ça se passe?
Alors, il y a les fameux étirements qui sont un peu controversés. On ne sait pas vraiment s'il faut en faire ou pas. J'aurais tendance à dire que c'est un peu en fonction des personnes. Si on a tendance à avoir énormément de courbatures après une séance, c'est pas forcément normal. Les gens pensent que c'est bien, j'ai des courbatures, ça a bien travaillé, mais pas vraiment. Donc dans ce cas-là, on va privilégier de faire des petits étirements, soit directement après la séance parce qu'on sent qu'on en a besoin, soit peut-être une heure après, hein, on va dire après la douche par exemple.
Les étirements, c'est le fait d'étirer le muscle chaud pour éviter que derrière il soit quoi? Dur? Qu'il fasse mal en tout cas?
Ben voilà, qu'il reste crispé de la séance qu'il a subie. Donc voilà, on vient l'étirer pour lui dire c'est bon, tu peux t'assouplir, tu peux te détendre. Et normalement, voilà, il y aura moins de courbatures après. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout de courbatures, hein, après un entraînement. Et donc dans ce cas-là, les étirements sont pas forcément... Ça pourrait même peut-être les blesser parce que le muscle est encore chaud. Donc c'est vraiment à faire en fonction. Mais je pense que si on a tendance à faire beaucoup de courbatures, étirement c'est bien, et hydratation, on en revient au même, mais pour la récupération musculaire, articulaire, l'eau permet de tout drainer, donc c'est important.
On peut voir comme une sorte de cycle entre échauffement, hydratation, étirement, hydratation.
Exactement.
Un cycle qui se commence avant l'entraînement, pendant l'entraînement et après l'entraînement.
C'est ça.
Ou après l'effort du moins. Du coup, ça y est, on a fait notre première séance, on est bien, on est chaud, on est en forme, on se dit, maintenant, je vais faire ça toute l'année, comment on fait pour tenir toute cette année? Parce qu'on va prendre une bonne résolution, ça y est, on se met au sport, physiquement, on est bien. Mais le rythme, il va falloir le tenir, parce qu'on a vu, c'est ce qui permet d'éviter de se ramollir.
Voilà.
Ce rythme-là, et éviter les blessures, comment on l'obtient, ou du moins, comment on essaye de le faire durer?
Sur la régularité, je pense, la régularité des entraînements, des activités, ça permet d'entretenir le corps, d'habituer le corps à avoir une routine. Si par exemple on a l'habitude de sortir faire du sport ou de la marche deux fois par semaine, et bien continuer sur deux fois par semaine, mais peut-être en augmentant l'intensité au long de l'année, le corps sera habitué et il va bien réagir. Donc sur la régularité des entraînements, ça permet de tenir tout au long de l'année. Il faut savoir que le repos est important aussi, en fonction de l'activité, c'est pas forcément nécessaire d'en faire tous les jours, c'est pas pour ça qu'on va gagner plus en muscles ou en cardio ou en respiration ou quoi, donc voilà, du repos c'est bien aussi.
L'idée c'est la régularité, l'hydratation, oui, la récupération, mais on le voit, on fait une séance de sport, on a un petit peu mal à la cuisse, on a des courbatures ou quoi. Est-ce qu'il faut tout arrêter pendant une semaine ou est-ce qu'il faut peut-être se dire que c'est une petite blessure ou rien qu'un petit bobo, mais on peut quand même y aller. Quand on se dit qu'on a un petit bobo et que c'est pas la peine de reprendre, alors qu'en fait s'il faut c'est rien du tout, c'est une sorte d'auto-diagnostic et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, tout dépend de la blessure, bien sûr. Si c'est juste des courbatures, qu'on arrive à marcher, mais qu'on sent que les muscles tirent, reprendre de l'activité, alors je parle pas d'aller soulever je sais pas combien de kilos hein, en salle de muscu, mais de marcher une rando ou des choses comme ça, ça va permettre de redonner aux muscles de la mobilité. Donc, après des courbatures, reprendre une activité, ça pourra faire du bien. Après, si par contre on sent que c'est une blessure qui tire, qui est soulagée seulement quand on est au repos, par exemple, que c'est très inflammatoire, il vaut mieux consulter un professionnel parce que voilà, faut pas laisser traîner et ne pas empirer la chose avec l'activité. Donc voilà, pour des petites courbatures, reprendre l'activité, pas de souci. À mesurer en fonction de la douleur ou la blessure qui survient, quoi.
Si vous reprenez le sport et qui nous écoutez, ces 10 premières minutes, on peut les résumer comment ? Échauffement, hydratation. Et y aller petit à petit, étape par étape, marche par marche. On peut résumer ça comme ça.
Exactement.
Voilà, merci beaucoup Mégane Goupy. Vous êtes ostéopathe, on peut vous retrouver à Belmar, à quelle adresse précisément ?
Au 49 avenue de Lasbordes.
Voilà, rendez-vous est pris, merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, quelques conseils que pourront écouter les joueurs du 15 de France, ou du moins les membres du staff de l'équipe de France, puisque ce sera le sujet du débat dans quelques instants. Avec cette chaleur, les chaleurs qui arrivent, l'hydratation très important pendant les matchs, notamment on dit ça à Corentin qui arbitre au foot et qui fait des pauses fraîcheurs peut-être.
Alors pas de pause fraîcheur là sur le mois de septembre, ça a été plutôt au mois d'août pendant la préparation.
Voilà, eh bien tout est fait, la préparation elle est faite pour tout le monde. On se retrouve juste après une petite musique, 2 minutes 45. On vous laisse un petit peu digérer toute cette première partie et juste après on se retrouve pour débattre autour de la liste de blessés qui grandit au sein du 15 de France. La Coupe du Monde arrive à très grands pas en France et beaucoup de blessés et on en débattra. Est-ce qu'elle est en péril cette Coupe du Monde ? Réponse juste après ça.
I'm trying to strip off in your mind. Follow the show. You're gonna fall through desire. Just let it grow. Roll. And keep on dancing together over the flashlights. Lay down with me to get better. Slowly trick me tonight. Take me to your borderline. I swear that I could have it. There's no need to be shy. Take me to the other side of your sickness story and your heartless lie. Sins. Tonight I will mean your lies. Let me see your sweetest dreams till we fall in each other's eyes. And don't let me go before I stop being confused. It's time to realize you need me more than you know. Ain't got no time to lose, no rules to the night. Take me to your borderline. I swear that I could have it. There's no need to be shy. Take me to the other side of your sickness story and your heartless lies.
Sickness, sorry, and your heartless. to your borderline.
Une liste de blessés qui grandit au sein du 15 de France. La Coupe du Monde à domicile est-elle en péril pour nos bleus? C'est bien, c'est une jingle de boxe pour un sujet rugby, c'est pas mal. C'est le thème du débat sur lequel nous allons débattre du coup ce soir. Comment on fait? On va commencer par peut-être Coraline. Est-ce que pour vous la Coupe du Monde elle est en péril pour l'équipe de France avec tous ces blessés? Et pour l'instant, bon, on a quelques nouvelles de Danti qui semblent
plutôt rassurantes.
Aller, mais voilà, doucement.
Oui, en effet, Danti pourrait disputer le match contre la Nouvelle-Zélande vendredi, donc en soi c'est quand même une très bonne nouvelle si jamais c'était le cas, puisqu'on a besoin de toutes nos forces vives pour la Nouvelle-Zélande. Je pense pas que la Coupe du Monde pour la France soit en péril. Elle est moins bien embarquée que si on avait eu Bale et Ntamack. Après, je pense pas que ça nous mette grandement en danger, mais j'aurais préféré les avoir pour la Nouvelle-Zélande, c'est sûr.
Ah, Erwan n'est pas d'accord.
Comment dire? Non, c'est que c'est...
Ah non, pas de neutralité, par pitié.
C'est compliqué parce que, en fait, cette phase de poule, on a un peu l'impression qu'elle est en demi-mesure, en fait. On a tous envie de jouer les blacks à fond. Mais d'un côté, bah, peu importe comment on va finir dans cette poule, on va prendre sûrement soit l'Irlande, soit l'Afrique du Sud, peut-être l'Écosse, qui n'inquiète pas forcément les blacks, mais nous, c'est une équipe contre laquelle on a beaucoup de mal, souvent l'Écosse. Donc, je me dis qu'au final, ces blessures qui sont qu'on voit beaucoup et qui vont être effectives surtout pour la phase de poule, à part Romain Ntamack qui est blessé longue durée, les autres devraient être tous
et
disponibles.
Paul Willemse.
Et Paul Willemse, oui, bien sûr, qui a été annoncé dans la semaine. Ils seront tous disponibles à la fin de la phase de poule, normalement. Baïs, on attend de voir, mais normalement, il devrait être disponible pour les derniers matchs de poule.
Jelon, pareil,
même il a déjà repris un entraînement assez intensif, il pourrait même être de retour plus rapidement que prévu.
On n'a pas peur de la rechute. Peut-être pour Jelon et pour Bale, ça a l'air d'aller, mais c'est pas négligeable quand même. Si ça reste quand même des matchs de rugby contre des équipes, l'Uruguay, l'Italie, ça reste la Namibie. On va pas se le cacher, on voit pas beaucoup de matchs de la Namibie, mais on n'a pas peur de la rechute.
Non, j'ai pas peur de la rechute. Après, effectivement, alors l'Italie reste quand même l'Italie, même si l'Italie était en train de devenir une équipe avec un niveau, c'est-à-dire qu'auparavant,
avec
quand on non mais voilà, j'ai pas dit avec un bon niveau, mais avant elle avait un mauvais niveau et presque il aurait fallu la basculer peut-être dans le Six Nations dans le deuxième, on va dire. Là maintenant, l'Italie, je pense, a toute sa place dans le Six Nations actuel, donc je pense que l'Italie a augmenté son niveau, mais ça reste quand même l'Italie.
Le timing est peut-être pas bon au niveau des blessés, c'est-à-dire qu'on en perd beaucoup pour le premier match qui est capital. Et les autres vont revenir pour des matchs un peu moins tranchants, on va dire.
Bah, d'un côté, la rechute, moi j'ai envie de dire, si t'as peur de la rechute lors du mondial...
Il faut pas faire du rugby, quoi.
Ouais, voilà, il faut pas faire du rugby. Et puis pour le mondial, est-ce que tu te poses vraiment la question de t'économiser? Donc voilà, il y a cette question-là. Si le joueur a peur de se blesser, il fait pas le mondial. Je sais que c'est compliqué pour lui, mais d'un côté, c'est une responsabilité. Et puis je pense très sincèrement que c'est une question qui se pose pas tellement. Je pense que pour la Coupe du Monde, il y a justement plus de joueurs qui seraient prêts à revenir, quitte à se blesser et même peut-être à jouer blessé après. Alors c'est pas du rugby, c'est du foot, mais on a tous la mémoire de Samuel Umtiti qui a joué toute la Coupe du Monde 2018 en étant blessé. Ce qui a ruiné sa carrière, mais au final, je pense que si on lui demande s'il regrette, je pense qu'il dira non.
Il le refait tous les jours, ouais.
Voilà, parce qu'il est champion du monde, et je pense que c'est à peu près la même dynamique des Bleus, et d'ailleurs on parlait de la blessure de Danti qui pourrait peut-être être réparé un peu comme un coup de baguette magique.
Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un entraînement qui a été fait. Danti portait le dossard 12. Donc, est-ce qu'on a un espoir de revoir Danti pour peut-être les Blacks? Ou alors au moins une partie du match?
Ouais, peut-être en finisseur, peut-être il le testera ou alors ouais, je pense en finisseur. Je pense qu'il fera le match, mais en finisseur si jamais sa blessure le permet quand même. Mais après effectivement, de toute façon des blessés, on va en avoir d'autres. Faut s'y préparer pendant la Coupe du Monde. On va en avoir d'autres. Là, on en a eu pour l'avant Coupe du Monde, pour la préparation, mais on va en avoir d'autres. Hein. C'est sûr et certain. Malheureusement.
Corentin, est-ce que la Coupe du Monde est presque en péril pour les Bleus?
Alors. Pour moi, non. Elle ne l'est pas. Par contre, la blessure de Danti est vraiment le baromètre pour savoir si notre Coupe du Monde elle est en danger ou pas. Parce que Danti, c'est un joueur, on n'en a qu'un, comme Danti. En France, il n'y en a qu'un. En Europe, il n'y en a pas beaucoup des comme lui. Dans le monde,
il a surperformé ses derniers matchs. C'est vraiment.
Et sachant que sa complémentarité en défense avec Jalibert, elle est vitale, parce que Jalibert, c'est un gruyère en défense. C'est un joueur magnifique offensivement, mais défensivement, c'est très compliqué. Et on avait un Tamac Danti, c'était solide en défense. Si Danti n'est pas là, j'ai peur. Pour la défense de l'équipe de France, ça va devoir décaler la ligne de centre, faire passer Jalibert en troisième rideau. On va complexifier notre schéma de jeu. Danti, c'est un élément qui est très très important. Et je rebondis sur ce que disait Coraline, c'est que Danti ne pourrait même pas faire finisseur, parce qu'en fait, dans le schéma de jeu de Galtier, c'est 6 avant avec Makalou qui est l'avant qui peut éventuellement jouer en ailier parce qu'il a ces capacités-là. Et derrière, vous avez Lucu et Jaminet très certainement qui va rentrer dans l'équation. Donc Danti ne peut même pas être finisseur. Donc soit on le laisse au repos pour la Nouvelle-Zélande, soit on le met titulaire. Moi, je pense qu'il faut le laisser se reposer, miser sur un joueur comme Arthur Vincent. Mais pareil, on peut redouter une rechute pour le joueur de Montpellier qui revient d'une grosse blessure des ligaments croisés. Pour moi, le mondial, il n'est pas en péril. Il faut faire confiance au staff, même si quand même la catastrophe de blessure, pour moi, elle vient surtout des remplaçants qui n'ont pas assumé leur rôle lors du premier match face à l'Écosse, qui a poussé Fabien Galtier et son staff à faire rentrer des joueurs, je prends des gros guillemets pour dire premium, là, on sort des petits termes un peu partout là de la part du staff. Et voilà, si les joueurs du 15 de France, les remplaçants, avaient fait le boulot contre l'Écosse lors du premier match de préparation, peut-être qu'on n'aurait pas fait rentrer les titulaires au deuxième match, peut-être que Ntamack ne se serait pas blessé au troisième s'il avait été sollicité trop tôt. Voilà, je trouve que c'est peut-être cet enchaînement-là qui fait qu'on arrive dans cette situation aujourd'hui à se poser des questions.
On peut se poser la question sur les blessés. On sait qu'il va y avoir encore de la casse pour la France comme pour les autres pays. Il va y avoir en phase de poule Afrique du Sud, Irlande. Dans ce match-là, il va aussi y avoir de la casse. Si on a de la chance et on touche du bois ici, si la France est première de son groupe, Afrique du Sud ou Irlande ou peut-être Écosse, il va y avoir de la casse. Est-ce que c'est peut-être bon signe si tous les joueurs reviennent pour le quart?
Moi, c'est bon signe, mais par contre, qu'il y ait de la casse, c'est pas bon signe.
Afrique du Sud, Irlande, ça va pas respirer la poésie non plus.
C'est pas bon signe sur la nature des blessures, notamment musculaires. Pour des joueurs comme Bay, etc., c'est quand même inquiétant sur l'intensité de la préparation. Qu'un joueur se casse la clavicule sur un plaquage, c'est des choses qui peuvent arriver au rugby. Mais après, qu'il y ait des problèmes musculaires liés à la préparation, ça, c'est peut-être plus inquiétant.
Mais Roy n'est pas
d'accord. Peut-être aussi, concernant Bay aussi, c'est peut-être aussi lié à la fatigue aussi. Il est toulousain.
Il a fait une grosse saison aussi.
Il a fait une grosse saison. Il a terminé sa saison et il a commencé la suivante.
Et Rouen, pendant que Corentin parlait, Rouen secouait la tête en disant non.
Pour le coup, c'est sur la teneur des affiches, en fait. Par exemple, Irlande, Afrique du Sud, je suis pas sûr que ce soit la plus dangereuse. Je pense que, par exemple, des matchs contre des plus petites équipes qui sont très épuisées par le rythme et qui, par exemple, peuvent moins perfectionner leur plaquage ou des choses comme ça, ou des équipes qu'on connaît.
Un accident?
Étant très.
Peut-être, pendant un match?
Un accident, ouais. Je pense, par exemple, à des équipes comme les Tonga, qui sont connues pour extrêmement appuyer leur plaquage. Par exemple, heureusement, ils sont pas dans notre poule, mais voilà, par exemple, pour le cas de l'Irlande ou de l'Afrique du Sud, ça peut être très très dommageable. Et puis, je pensais aussi à ce que disait Corentin par rapport à Jonathan Danti. Je suis pas sûr qu'il soit si irremplaçable que ça. Je pense qu'en fait, il enlève beaucoup de poids à la troisième ligne au niveau des plaquages offensifs.
Mmh. Au niveau des ballons grattés aussi, il en a beaucoup fait contre les Fidji. Ça a été incroyable d'ailleurs, mais
ça va compter beaucoup moins parce que la règle. Sur comment on a le droit de gratter les plaquages a changé en fait cet été, et maintenant les arbitres sont beaucoup plus sévères sur les grattages, et notamment il faut vraiment montrer très clairement à l'arbitre qu'on vient par la porte, ce qu'on appelle, donc vraiment par l'axe. Avant on disait qu'on devait le montrer, mais juste en fait fallait juste un peu relever la tête et plonger. Maintenant va vraiment falloir totalement se relever entre un plaquage et vraiment y aller. C'est assez compliqué, surtout dans des matchs qui sont très intenses où ça peut venir très fort sur les rucks. Et puis, si jamais Danti ne veut pas se présenter face aux Blacks, moi je pense qu'il y a un joueur de la troisième ligne qui pourra dépanner au niveau des plaquages offensifs. Et après, au niveau des plaquages standards ou pour protéger les arrières de Jalibert, moi je pense que Arthur Vincent, il est complètement capable de le faire. C'est un joueur qui est excellent défensivement. C'est même, je trouve, son principal point fort, même s'il a pas joué beaucoup de matchs ces dernières années parce qu'il a très souvent été blessé. Vraiment défensivement, on est sur un joueur de classe premium, justement, quand même le dire le. Fabien Galtier et son staff. Il y aurait Gaël Ficou, il n'y a même pas besoin d'en parler, c'est le capitaine de la défense du 15 de France. Donc moi je pense que ça. Enfin, j'ai pas trop de peur sur ça. Par contre, effectivement, si c'est Mo et Fana qui est aligné, là j'ai un peu plus peur. Hein. Voilà.
Au niveau de des nouvelles et des blessés, on va aussi annoncer qu'il y a deux blessés côté Nouvelle-Zélande. Barrett qui a 30 points de suture, il me semble, et un arrière aussi qui est touché au genou, mais rien de grave, mais qui pourrait être forfait contre la France. Donc les Blacks aussi ont eu leur petite blessure. Voilà.
Et je tenais même à dire qu'il y a plus que ça, parce que au niveau des All Blacks, parce qu'il y a des blessures aussi de longue date en fait, comme par exemple Sévouris qui peut pas participer, qui est lié, qui oblige du coup Will Jordan à glisser de l'arrière à l'aile, alors que c'est un poste où il est certes excellent, hein, vraiment Will Jordan, on parle peut-être d'un des trois meilleurs joueurs de la planète, mais il est moins performant à l'aile parce que par conséquent il peut prendre moins de profondeur, donc il voit moins bien le jeu. Mais il y a aussi des joueurs comme le pilier Joe Moody, du coup il y a Jordi Barrett comme vous disiez, et puis il y a aussi Brody Retallick qui va être absent, et ça va poser souci. Et même si on regarde les trois autres gros favoris au mondial, il y a pas mal d'absents niveau Springboks. On a Pollard, Ham et De Jager qui sont blessés, et il y a Colissi qui revient tout juste. On est sur quatre champions du monde qui seront soit absents soit pas en état de forme optimale. Même d'un point de vue de l'Irlande, il y a Sexton qui est suspendu, il n'est pas blessé, mais il faut se rappeler qu'avant, il n'a pas joué depuis mars, parce qu'il a été blessé sur toute la fin de saison. Donc vraiment, on est sur des joueurs qui manquent d'état de forme. Et au niveau des forfaits, encore une fois, en Irlande, il y a Kian Healy, Ronan Keller, Dev Kilcoyne, Keith Hurst, qui reviennent tout juste de blessure, et on n'est même pas sûr qu'ils puissent être disponibles pour les matchs contre l'Irlande et l'Afrique du Sud.
Donc au final, il y a quand même encore un petit peu d'espoir au sein de... Il y a des blessés partout, il y a des blessés chez tout le monde, important comme un peu moins, donc au final, toutes les cartes sont battues, et est-ce qu'on peut avoir un vrai élan de positivité en disant, nous, ok, on a perdu Ntamack, Willemse, c'est fini, mais d'autres arrivent, peut-être que cette chance n'est pas du côté des adversaires et des potentiels quarts de finalistes si toutefois ils passent les poules.
Et puis ils auront le 16e homme quand même, les Français.
Voilà,
qui
peut-être.
Va,
est-ce compte, que beaucoup, les supporters le français vont être peut-être le denti des tribunes, mais peut-être pas quand même. Mais voilà.
Ça, alors, ouais. Alors je laisserai passer n'importe quel joueur. Comptez pas sur moi.
Est-ce qu'il va y avoir un véritable élan de soutien? Eh bien, écoutez, ça sera à suivre, parce que la coupe du monde, c'est dans J-4 maintenant. Ça commence vendredi 8 septembre. Ce sera 21h15 France Nouvelle-Zélande. On en parlera évidemment la semaine prochaine. Peut-être que d'ici là, il y aura pas de questions à se poser. Peut-être que même si la Nouvelle-Zélande ne perd jamais deux fois d'affilée, peut-être que là ils vont prendre une rouste, ou peut-être que la France va échouer dans ce premier match. On verra. On en parlera évidemment la semaine prochaine. Les débats restent ouverts. La Coupe du Monde n'a pas commencé, donc il y aura sûrement d'autres actualités. On les distillera bien évidemment. Et Rouen, un dernier mot peut-être.
Ouais, et d'ailleurs, pour mémoire, vous disiez si jamais on perdait, il faut se rappeler que l'Afrique du Sud a perdu le match contre la Nouvelle-Zélande en 2019. Et c'était la première équipe de l'histoire à gagner une Coupe du Monde alors qu'elle avait perdu un match en poule.
Donc ouais, c'est peut-être bon signe.
Après, moi j'ai un mauvais souvenir de 2011. J'aurais quand même bien envie de battre la Nouvelle-Zélande ici sur nos terres.
Est-ce qu'on se risque au pronostic? Rapidement, Erwan.
Moi je pense que pour France-Nouvelle-Zélande,
oui.
Je pense que la France va s'en sortir, mais de peu, va vraiment se faire peur. Et je pense que ça va mettre en lumière quelques défauts de l'équipe de France.
La France pour moi aussi, moins de 10 points d'écart.
Corentin?
J'aurais dit la France, un score proche du style 27-24, quelque
d'accord,
chose comme
très
ça.
Bien. Donc, tout le monde voit un match assez serré.
De Thomas Ramos.
Assez serré, mais pour les Bleus.
Oui.
Eh bien voilà, eh bien écoutez, on verra ça donc lundi prochain. Tout de suite, il est l'heure de la chronique.
Esprit Sport, la chronique.
Alors ça y est, le grand jour, c'est vendredi, à partir du 8 septembre, les 20 meilleures nations du monde s'affronteront à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, ça ne vous a pas échappé, et à quelques jours du coup d'envoi, j'imagine que tous les pays sont gonflés à bloc, Erwan.
Oui, alors dans le tas, on trouve du bon et du moins bon, ainsi permettez-moi un rapide tour d'effectif parmi les 20 qualifiés. Bon, premièrement, on a les laissés pour compte, ceux qui viennent pour la figuration, ils viennent faire valoir leur amour du ballon, mais ils risquent de vite tourner en rond. Je parle bien évidemment de la Namibie, la Roumanie, le Portugal ou encore le Chili. Ces formations, elles ne brillent pas par leurs ambitions, mais elles nous font quand même un peu rêver. Après tout, on est en France, le pays des épopées, des petits poussés. Ces équipes, on les apprécie par nature. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elles sont à un niveau en dessous qu'elles ne jouent pas bien. Durant les qualifications, le Chili et le Portugal ont montré un jeu léché, Elles jouent vers l'avant, envoient sur les côtés et font cavaler leurs coéquipiers. De l'autre côté, la Namibie et la Roumanie, c'est des habitués, hein, les piliers de barre moroses du mondial. On les voit presque à chaque édition, ils ne font rien, ils ne parlent à personne, mais bon, ils font partie des meubles. Dans le tas, on pourrait même compter les Tonga, qui malgré leur puissance, auront sûrement du mal à se défaire de leurs redoutables adversaires de la poule B.
Est-ce que vous pouvez nous rassurer, Erwan, il y a quand même des équipes au niveau pour la compétition?
Bien sûr, il y a la crème de la crème, les meilleurs parmi les meilleurs. Bon, après, le seul hic, c'est que les meilleures nations mondiales ont toutes été réunies en deux petites poules. Dans la A, on trouve Cocorico, la France, et son Antoine Dupont national. Et les All Blacks, dans le dur ces derniers temps, mais pas de souci, ils sont toujours redoutables. Ces deux formations, ils font partie des principaux favoris pour soulever le trophée William Webelis, et elles s'affrontent d'entrée pour le match d'ouverture. L'occasion parfaite de nous donner l'eau à la bouche, pas vrai?
Ah là, ça va être incroyable.
En parallèle, l'Italie et l'Uruguay devraient surtout se battre ensemble pour accrocher une troisième place dans la poule. Aujourd'hui, ça a été annoncé que cette dernière permettrait de se qualifier directement pour le mondial en Australie. Hormis la France et la Nouvelle-Zélande, d'autres noms qui pourraient vous venir en tête quand on parle des potentiels futurs vainqueurs. Par exemple, il y a l'Afrique du Sud pour commencer. Les champions du monde en titre sont toujours aussi forts et font peur. Ils font vraiment peur. Récemment, ils ont collé une victoire historique au All Black, une gifle sur le score de 35-7 à la défaveur des hommes en noir, que ça soit devant ou derrière, les Springboks ont de quoi faire mal à n'importe qui. Eux, ils sont dans la poule B et ils ont ramené quelques copains pour l'occasion. Car ouais, dans ce groupe, on retrouve aussi l'Irlande, nos pires ennemis, ou nos meilleurs ennemis, c'est comme vous voulez. Et il y a un an, ils s'étaient envolés en Nouvelle-Zélande. Ils avaient pris l'avion, ils étaient allés gifler les Blacks chez eux. Depuis, ils ont fait leur petit bout de chemin. Bon, ils ont écrasé ceux qui venaient interférer, quitte à prendre quelques polémiques arbitrales en pleine tronche. En France, on voit de quoi on parle, si vous vous souvenez des nations. Mais enfin, on retrouve aussi l'Écosse, qui monte depuis quelque temps. Et même si à l'absence de Stuart Hogg, le très célèbre arrière écossais, excusez-moi, bah, les Écossais, ils ont fait une excellente préparation au mondial et chercheront à créer l'exploit.
Alors bon, il y a quand même d'autres équipes prêtes à jouer les troubles faites, non?
Ah ça oui. Mais si nous, en tant que spectateurs, on n'est pas sûr de leur potentiel, bah, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas l'air au courant non plus de leur potentiel, en fait. Parce que par exemple, la poule D, avec l'Angleterre, l'Argentine ou encore le Japon, ça vous fait saliver quand je dis ça en 2019.
Bah, quand même, mais l'Argentine, ça rappelle de mauvais souvenirs.
Mais bon, ça va pas fort pour eux, hein, je vous rassure. Parce que comme à leur habitude, l'Argentine alterne entre déception, exploit ponctuel, c'est un peu l'histoire de la sélection au final. Et cet été, les Pumas, ils ont pris 50 points à domicile contre les All Blacks, ils ont bien commencé l'été. Et la semaine suivante, bah, ils sont allés gagner en Australie en toute fin de match avec une victoire au courage. Et on se dit qu'ils vont continuer après sur leur lancée et qu'ils vont monter en puissance tout le long de l'été. Bah non, bah le tout avant de perdre un peu de face à l'équipe type des Springboks en Afrique du Sud. Voilà, les Pumas n'ont pas vraiment réussi à rassurer durant l'été. Après, leurs deux concurrents, ils font pas le figure. Bah, d'un côté, l'Angleterre, ça enchaîne les bourdes. Après la victoire historique des Français cet hiver à Twickenham, ce sont les Fidji qui sont venus faire leur loi outre-Manche, juste avant le mondial. Et ça, bah, c'est pas passé inaperçu. Parce que bon, alors, les préparations des Anglais, pour l'instant, elles les envoient tout droit vers un billet retour en Eurostar dès début octobre. Mais les Rosbif peuvent se rassurer, il y a peut-être pire que dans le groupe. Ah oui, parce que le Japon, il déçoit également. L'hôte de la dernière Coupe du Monde, il est resté sur ses acquis du mondial 2019. Il accroche l'écart, le tout, avec de très bons joueurs, une vitesse de jeu vraiment qu'on avait rarement vue. Mais voilà, maintenant, c'est plus ça. Il y a une formation vieillissante, mal préparée, avec un sélectionneur qui ne fait pas l'unanimité. Bref, rien de bien réjouissant. En réalité, la situation est tellement critique dans ce groupe qu'un éventuel exploit des Samoa se dresse en toile de fond cet automne. Récents vainqueurs du Japon, ils ont aussi réussi à accrocher l'Irlande en préparation.
Et alors, la poule C, on n'en a pas parlé encore.
Oui, alors la poule C, elle est extrêmement intéressante, mais voyons, j'y arrive. Je gardais juste le meilleur pour la fin. Entre le Pays de Galles, les Fidji, l'Australie et la Géorgie, personne n'a aucune idée de qui peut s'en tirer. Au vu de leur performance récente, les quatre équipes peuvent espérer décrocher une place en quart de finale. Par exemple, beaucoup d'observateurs imaginent une qualification en quart de finale pour les Fidji. Et si eux, ils arrivent très fort, les Australiens et les Gallois, bah, ils traînent un peu de la patte. Surtout depuis un an. Dans le coin, les Géorgiens et leur pack, ils pourraient aussi en surprendre plus d'un. En bref, dans la poule C, il y aura du suspense et sûrement quelques beaux matchs à regarder. Puis de manière générale, une Coupe du Monde de rugby, ça savoure en entier. Donc comptez sur les passionnés pour ne pas en rater une miette.
Et bien évidemment, restez avec nous pour ne rien rater. C'était la première cape pour Erwan, il s'en est plutôt bien sorti. Maintenant, on sait un petit peu comment sont les équipes dans chaque poule. On verra donc affaire à suivre jusqu'au 28 octobre, jour de finale. Tout de suite, justement, il est l'heure, nous, de jouer.
Esprit Sport, le jeu.
Pour terminer, c'est... Oui. Ben Coraline, qu'est-ce qui se passe?
Il est parti tout seul.
Il est parti tout seul. Et ben j'espère que vous allez être aussi rapide que le jingle qui est parti tout seul. Puisque maintenant, on va passer, vous qui nous écoutez, vous pouvez aussi jouer chez vous. Vous me donnez votre prénom si vous avez la réponse. Je note les points. Celui qui gagne, il a le mérite de tout le reste de l'équipe. Un jeu simple pour s'échauffer, pour la saison et évidemment pour réviser, pour être prêt pour cette Coupe du Monde à la maison. C'est important. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui. Oui.
Prêt.
Ah, il y a un petit délai pour commenter. En tout cas, voilà. Quelles sont les autres équipes de la groupe de l'équipe de France?
Prénom. Coraline.
Ah, je crois qu'il y a Coraline.
Nouvelle-Zélande, oui. Uruguay, oui. Italie, Namibie.
Et France. Voilà. Félicitations, Coraline, un point. Voilà, vous avez vu, ça va vite. Hein, c'est du tac au tac. Vous qui êtes chez vous, n'hésitez pas aussi à réviser. Attention, où est le camp de base de l'équipe de France?
Erwan, Ruelle Malmaison.
Exactement. Erwan, félicitations. C'est voilà, comme ça au moins si vous n'êtes pas aussi au point, peut-être vous qui nous écoutez, ben là au moins c'est voilà, on fait le récap. Corentin, tout se passe bien?
Pour l'instant ça va. Après peut-être que le délai m'aide pas trop aussi. J'aurais une petite excuse si jamais je perds.
Très bien. Quel est le premier match de la Coupe du Monde au Stadium à Toulouse?
Corentin.
Oui.
Nouvelle-Zélande Namibie?
Non.
Non, c'est avec le Japon il me semble, mais.
Non, on n'a pas
Erwan,
une idée.
Erwan, Japon, oui. Chili.
Exactement, ça sera dimanche à 13h au Stadium. Vous avez de la chance, si vous avez pu avoir des billets, vous allez pouvoir en profiter de ce beau match, puisque la ville rose est ville haute du Japon, qui a reçu sa cape ce week-end. Jusqu'au 28 octobre, quelle équipe est championne du monde de rugby?
Erwan. Oui. L'Afrique du Sud.
Voilà, on en a parlé, voilà. Comme ça, on remet un petit peu. C'est une question très simple, hein. C'est ce qu'on appelle un échauffement quarantaine, tout se passe bien.
Toujours
autant de délais. Combien d'équipes participeront à la Coupe du Monde 2023?
Erwan.
Il en laisse pas une. Hein. C'est un tireur d'élite.
Je suis très rapide. 20.
20. Voilà, félicitations Erwan. Coraline, pour l'honneur, j'ai l'impression qu'on a donné une bonne réponse. Voilà. Attention, un petit peu plus compliqué. Corentin et vous qui nous écoutez, vous avez toutes vos chances. Quel stade accueilleront les matchs de la Coupe du Monde 2023 en France? Il y en a 9.
Allez, Coraline, je
combien
le tente.
Vous pouvez en donner, Coraline?
5.
5, Erwan.
7.
Corentin.
8.
On commence par Corentin. Si Corentin vous trompez, c'est point pour les autres.
D'accord. Alors, le Stade de France.
Oui.
Le Vélodrome.
Oui.
Le Stadium.
Oui.
Le Groupama Stadium.
Oui.
Geoffroy Guichard.
À Saint-Etienne, oui.
Le Matmut Atlantique.
À Bordeaux, oui.
Pierre Mauroy à Lille.
À Villeneuve d'Ascq, oui.
Et je dirais Bollard aussi.
Non, c'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Voilà, un point pour tout le monde. Il restait le stade de Nice, l'Alliance Riviera, et le stade de la Beaujoire à Nantes. Et le plus grand stade, ça sera le Stade de France, évidemment, avec 80 000 places, là où se jouera les principaux matchs de l'équipe de France et la finale. En tout cas, Corentin, vous êtes bien aimable, bien généreux pour vos camarades.
Je me suis offert un petit barreau d'honneur.
quel est le joueur le plus capé en rugby? Tous sélections confondues.
Corentin.
Ah.
Corentin.
J'aurais dit Alouine Jones.
Ah, effectivement, c'est une bonne réponse. Comme ça, au moins, on sait. Est-ce qu'il joue la Coupe du Monde, Alouine Jones?
Non.
Non,
joker médical à Toulon.
C'est vrai qu'il est joker médical à Toulon.
Il enlève les déchets aussi des tribunaux.
Oui, c'est vrai. Il y a une très jolie vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux d'Alouine Jones. Voilà. Pays de Galles, toujours une petite rivalité avec la France, notamment au niveau du tournoi des 6 nations. Quel est le nom du trophée remis au vainqueur de cette Coupe du Monde? Coraline.
Webelis,
effectivement. Félicitations, on essaie très serré quand même. Qui était Webelis?
Erwan.
Oui.
C'est théoriquement la première personne à avoir pris le ballon à la main. Voilà, qui a inventé le rugby, même si aujourd'hui on sait qu'à peu près que c'est une légende et que
oui,
c'est beaucoup moins romantique.
C'est une légende pour romancer un petit peu tout ça. C'est l'inventeur britannique du rugby moderne. Il était élève au collège de la ville de Rugby. Attention, plus d'un point. Où se situe la ville de Rugby?
Dans le centre de l'Angleterre.
Il est incollable. C'est.
J'ai pas dit Erwan, excuse-moi.
Erwan, oui. Erwan, il a décidé de venir, de partir avec les valises pleines. Voilà. Merci beaucoup, Corentin, d'avoir participé. Vous aussi chez vous.
Avec plaisir.
Voilà. C'est la figuration, il en fallait une. La saison dernière, c'était Coraline. Là, cette année, j'ai l'impression que Corentin, vous êtes bien parti. Bon, il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire que je l'ai laissé.
C'est parti, c'est pour ça.
C'est plus rien à faire. Avant de se quitter, évidemment, on joue, on vous donne aussi peut-être quelques astuces pour pronostiquer des matchs. C'est tout de suite. Il nous reste 2-3 petites minutes ensemble et on va les passer, évidemment, avec cette petite sonnette. Cette petite sonnette, on peut se remettre un petit peu de musique, peut-être, Coraline, pour éviter de voilà. C'est la préparation, c'est la rentrée. On est tous ensemble. Petit pronostic sur France-Irlande. C'est du foot, c'est jeudi soir et ça compte pour les qualifications de l'Euro de football. Coraline, qu'est-ce que vous voyez pour ce match? C'est du foot.
Oui. France.
Non, c'est bien France.
Vous voulez un.
Bon, peut-être, oui.
Allez-y. 2-0.
2-0, Erwan.
2-1. Pour la France.
Ah, c'est plus. Déjà, plus. On prend un but.
Oui, ce genre de match, la France a souvent un peu de mal. C'est souvent les remplaçants qui arrivent et qui nous font plaisir.
Courant thème.
J'aurais dit 2-0 aussi pour les Bleus.
2-0 pour les Bleus aussi, très bien. On enchaîne avec France-Nouvelle-Zélande, on l'a déjà fait. Tout le monde voit une équipe de la France, évidemment. Et un petit peu d'autres sports avec un ballon à la main. On va parler de Toulouse-Dunkerque au handball. C'est à 20h. Petit pronostic, peut-être.
Victoire du Phoenix.
Victoire du Phoenix pour Erwan.
Phoenix aussi.
Tout le monde va voir le Phoenix, Corentin.
Non, moi je vais dire quand même Dunkerque parce que le Phoenix, voilà, ça peut leur arriver à domicile de trébucher.
Voilà, mais moi aussi je vois aussi une victoire de Dunkerque. Eh bien écoutez, merci d'avoir été avec nous pour cette première émission d'Esprit Sport.